19h.
Le mix.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Ton Libre en ce jeudi 9 avril 2015, un Ton Libre sans générique, bah ouais voilà, nous on est comme ça, on se lâche, on fait sans générique parce qu'on a tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet. Et donc on est ensemble pendant une heure jusqu'à 20h, et puis pour cette émission, évidemment, des chroniqueurs avec moi en studio. Hélène est là, bonsoir Hélène.
Salut tout le monde.
Et puis Emilien.
Salut Rebecca, salut Ton Libre.
Ah oui, bah voilà, salut Ton Libre, salut tous les auditeurs. Hélène, j'ai oublié de te poser la question, comment vas-tu bien ?
Eh bah, ça va toujours très bien quand on est sur Ton Libre.
Super. Aujourd'hui, pour ce Ton Libre, nous allons nous amuser avec le mot éclipse. C'est le mot que nous avons choisi collectivement pour cette émission, et donc j'espère que vous aussi, il vous inspire. Alors il y a eu une éclipse il y a quelques temps, c'était fin mars, mais que nous n'avons pas eu le plaisir de voir en Haute-Normandie, puisqu'évidemment le ciel était gris, nuageux, donc voilà. Mais bon, bref, on va redonner vie à l'éclipse.
Mais on l'a imaginé.
Voilà, on l'a imaginé.
C'était encore plus beau.
Et donc nous, on va redonner vie à l'éclipse ce soir, pendant une heure, sur HDR, le mix des cultures, et comme d'habitude, vous avez toujours raison d'être là avec nous. Pour commencer cette émission, tiens, eh bien si on se mettait un petit morceau de musique pour commencer en douceur.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Bon, bah, très bien. On écoute. Vous allez voir, ça va être vachement bien.
Faux départ.
Ah, ouais, faux départ. On va essayer de recommencer.
On commence par éclipser les morceaux de musique.
Voilà, voilà, c'est ça. En fait, tout est toujours prévu pour que même les ratés, tout ça, soit bien dans le contexte. Je réessaye. A priori, ça ne veut pas. Eh bien, je vais mettre un autre morceau.
Oli.
Qui ne veut pas partir non plus ? Ouais ! Tout va bien, on est bien. Je ne sais pas si.
Non, Rebecca, je ne chanterai pas.
Ah, allez.
Pour les oreilles des auditeurs.
Ouais, t'es gentil avec nous, mais je vais quand même. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas marcher. Bref, on commence sans musique.
D'accord.
Voilà. Alors je peux pas non plus passer de reportage parce que si ça
dérange. Là, je vais essayer de rétablir la musique. Est-ce que je peux faire un petit coucou ?
Voilà.
C'est le moment des coucous. Ah bah oui.
Allez. Non, je voulais faire un petit coucou à Clara qui nous suit depuis la frontière suisse.
Ah.
Voilà, qui est une fidèle auditrice et puis là qui est partie à Bâle. Mm-hmm. Et voilà, qui nous suit très très régulièrement. Et voilà, je voulais lui faire un petit bisou.
Ah génial.
Bah nous aussi alors.
Bisous bisous. Et puis alors c'est vrai que là vous êtes tous les deux en studio, mais il y a aussi Stéphane Emmanuel, évidemment, qui est de l'autre côté de l'eau, qui nous a aussi concocté une chronique qu'on écoutera tout à l'heure, si évidemment la technique ne veut bien m'aider.
Un coucou à Louise aussi, qui je pense nous écoute aussi très régulièrement.
Voilà, et puis il y a Emmanuel qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui peut-être écoute aussi, très bien, voilà. Donc, allez, on réessaye. Soyons fous.
Allez.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend, papa dit qu'il a vu sa vie. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Des journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Et tu vas voir chacun pour sa chacune, chacun doit t'en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit. Papa dit qu'il l'a vu sa nuit.
Le soleil a rendez-vous avec la lune, c'était Charles Trenet, et oui, bien souvent, quand il s'agit d'éclipses, c'est que la lune et le soleil sont dans le coin, c'est plutôt de jolis rendez-vous. Alors le prochain, je crois que ça sera en 2036, que je ne sais pas trop quoi.
On sera encore vivant peut-être.
Éclipse totale, je crois que c'est 2081.
Ah ouais, bah oui, après, oui, avant ça. Ce sera des partiels. Ah. Oh, on sera encore tout jeune en 2081. Mmh.
Ouais, j'aurais 100 ans, c'est bien. Pour mes 100 ans. Cool.
Alors Hélène, Éclipse, ça t'a inspirée ?
Oui. Alors, j'ai réfléchi un petit peu, j'avais envie de parler, ça fait un petit moment qu'il y a 2-3 thèmes qui me trottent dans la tête, alors j'ai un peu détourné le thème Éclipse.
Tu as tout à fait raison, c'est voilà. Fait pour.
Et donc du coup, je suis allée lire un article très intéressant d'Acrimed, qui est un observatoire qui s'occupe des médias, et de pourquoi, du comment, et comment sont organisés les médias, comment ils fonctionnent, etc. Ils ont des choses très intéressantes à dire, et je vous conseille d'aller voir le site internet acrimed.org, je crois, qui raconte plein de choses. Et donc, j'ai récupéré un article qui parle, en fait, de la place du fait divers dans les médias, et comment ce fait divers éclipse de plus en plus... la part de la vraie, voilà, c'était le lien, qui éclipse de plus en plus la véritable information, et voilà. Et donc du coup, ça m'a fait réfléchir sur pourquoi les faits divers nous fascinent autant et pourquoi les médias sautaient d'autant plus dessus et nous en donnaient de plus en plus à manger, à lire, à voir. Et ça rebondit sur le crash de l'avion qui a eu peu, et donc on a fait du sensationnel, on cherchait la moindre image, le moindre truc pour décortiquer, etc. Et donc c'est vrai que ça tournait en boucle alors qu'il n'y avait rien à montrer, et que voilà, c'était un des derniers faits divers, mais il y en a tous les jours,
oui,
comme
de toute
ça
façon,
à l'appel.
C'est quasiment une tyrannie du fait divers. Hein,
tout à fait. Alors je ne sais pas, est-ce que vous, le fait divers vous fascine ? Est-ce que vous lisez Détective en secret ?
Je déteste les faits divers.
Tu détestes ça, je sais pas, Emilien.
Moi, ça m'horrifie aussi, effectivement. Enfin, l'appétit que peuvent avoir certaines personnes par rapport à effectivement, aux informations qu'on peut trouver sur le net, notamment, qui se délectent de ça, de faits divers sur Internet, c'est vrai que ça me rend un peu fou. Quoi.
Et puis en plus, souvent, ça sert aussi à alimenter une espèce de peur généralisée, peur de tout, peur.
Tout à fait. Ouais. Alors, à quoi sert le fait divers ?
Ah,
et
Hélène.
Pourquoi il nous fascine ? Parce que malgré tout, même si on dit qu'on ne l'aime pas, bah, on regarde quand même, on regarde des images, on est les premiers à être sur les chaînes d'infos de temps en temps quand même, il faut l'avouer. C'est tout le monde. Alors, à vous, à votre avis, pourquoi le fait divers nous fascine ? Pourquoi le côté horreur, les drames
C'est peut-être un rôle de catharsis ou d'exutoire aussi, peut-être quelque part
Tout à fait.
Ouais.
Exactement, exactement. Donc un des éléments qui fait que le fait divers nous fascine, ça renforce notre satisfaction existentielle. On se dit, bon, ça arrive aux autres, ils sont plus malheureux que nous. Donc c'est bien, ça nous rassure. Donc effectivement, on a de la chance de ne pas être soi-même la victime, et on se dit « Ah bah c'est bien, c'est pas arrivé à moi ». Et c'est souvent les gens qui aiment les films d'horreur se disent « Oui, chouette, ça m'arrive pas à moi, ça me fait peur ». Et c'est un catalyseur en fait, d'angoisse, ça montre l'angoisse. Et en fait, selon, alors c'est là que je vais parler, je vais citer les gens intéressants et intelligents qui ont parlé mieux que moi de ça. Et alors Michel Lejoyeux, et en fait, il a parlé des faits divers, c'est un psychiatre à Bichat à Paris, et en fait il dit que c'est la peur de la mort et l'exigence sociale obsessionnelle de santé individuelle qui explique cette fascination conjurationnelle pour la violence et les faits divers. Et donc en fait c'est très intéressant parce que c'est un mécanisme effectivement pour conjurer nos angoisses, on regarde ce qui peut nous arriver de pire pour se rassurer que ça nous arrive pas, et d'éviter d'avoir trop peur que ça nous arrive. Voilà.
Donc finalement, c'est quasiment un mécanisme, alors pas naturel, mais en tout cas qui sommeille finalement en chacun. Après,
en chacun de nous, tout à fait. Tout à fait. Donc alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer notre fascination? Par exemple, je vous prends de court.
C'est un phénomène très pascalien. En gros, ça nous divertit de notre triste destin qui est tous de mourir.
Oh là là, mais alors t'es trop forte, Rebecca. Mais oui, se divertir. Exactement. Se divertir, effectivement, ça, on nous raconte l'actualité, on en fait des feuilletons, des épisodes, etc. Ça nous divertit avec ces mystères, ces rebondissements, ces questionnements. Qui disent, mais pourquoi ce pilote a décidé de se suicider avec autant de gens à bord de l'appareil, et chacun y va de sa petite, de son avis. Et en fait, l'information dans ce cas, en fait, va devenir une sorte de fiction, et ça va nous divertir au sens de diversion qui nous éloigne de nos soucis du quotidien et de notre propre vie, parce qu'on va imaginer des choses et on va se projeter dans la vie d'autres personnes. Voilà.
Ça reste très glauque quand même.
Ah, c'est très glauque. Mais on le fait, et donc c'est très intéressant. Je suis tombée aussi sur un article, on pourra mettre aussi les liens sur ton blog, Rebecca, sur un article qui faisait le lien avec le fait divers et la littérature. Parce que la littérature se base énormément sur des faits divers pour raconter des histoires. Alors quand c'est très bien raconté par des écrivains très doués, du coup le fait divers bascule dans quelque chose d'autre. Mais voilà, quand il y a des choses très intéressantes qui sont basées, des thrillers, etc., des livres qui nous ont passionnés, qui nous ont embarqués, basés sur des faits divers.
Mmh. Et alors, est-ce que le fait divers, ça a uniquement une acception négative, ou on peut parler du fait divers, par exemple, imaginons un média qui irait raconter des petites histoires, mais positives, qui se passent à des tas d'endroits, on serait aussi dans le fait divers, mais finalement, avec une autre dimension.
Et il y en a qui font lien avec le côté people, le fait divers people, en fait, de la vie des people, en fait, qui ne nous intéressent pas spécialement à la base, parce que c'est leur vie et pas la nôtre, mais on va être fasciné par tout ce qu'ils vont raconter, dire, faire, porter, habiller. Et donc oui, là, on est peut-être dans le fait divers positif, dans le sens où ça ne raconte pas une histoire négative ou glauque ou un drame ou quelque chose comme ça.
D'accord. Donc, j'invite tout le monde à aller voir le site acrimed.org.
C'est ça.
Où on trouve aussi plein d'articles sur plein de sujets, avec un autre regard, des angles différents. Donc,
sur les médias. Ouais. Alors, pour finir quand même, sur mes faits divers, c'est aussi l'occasion d'éprouver une émotion à moindre coût. Parce que du coup, on va avoir peur, on va stresser, et ça va. Les gens aiment bien, comme par exemple un film d'horreur. Et du coup, c'est avoir une émotion, mais sans prendre de risque. Parce que quand on regarde un film, on sait qu'on est bien installé chez soi, dans son canapé, au chaud. On va peut-être fermer la porte à double tour, mais en fait, du coup, on prend pas de risque. Et donc, c'est aussi une source de plaisir, de ressentir des émotions. En fait, on va chercher ça pour avoir davantage de ressenti et de vécu, en se projetant comme ça sur des drames ou des choses. Voilà, c'est aussi une possibilité.
Bon, Patrice, en même temps, il y a un ancrage dans la réalité qui est quand même très présent. Quoi. C'est aussi qui donne le petit piment.
Oui.
Et donc aussi, c'est aussi une occasion de se socialiser. Parce que le fait divers, c'est très pratique pour parler avec les gens.
Ah oui, oui.
Parce que le potin et les petites histoires que tout le monde partage, parce que tout le monde est informé du fait divers, c'est un sujet de conversation au même titre que la météo. Et donc du coup, c'est un sujet très efficace pour capter l'attention de son auditoire et susciter l'intérêt des autres. Ouais. Et il paraît qu'en fait, on est meilleur narrateur lorsqu'on raconte des petits potins. Donc les infos sont plus précises, plus complètes, mieux décrites. Et donc du coup, il y a une fonction sociale essentielle, en fait, au même titre que le potin people ou l'insolite.
Ouais.
Voilà. Et donc pour finir sur ces éléments-là, on peut se poser la question si les médias, et c'est là que je vais basculer sur la deuxième partie de ma chronique, si j'ai le temps.
Oui, oui, oui,
les médias, en fait, en raffolent de ces faits divers et de ces histoires qui ne nous concernent pas directement, mais qu'on regarde avec fascination. S'ils développent leur audience, ils montent, ils font péter l'audimat pour le moindre truc. En fait, est-ce qu'on va s'habituer de plus en plus à ces faits divers, et est-ce qu'il va falloir augmenter l'intensité de ce qu'on voit, la course au le plus trash possible, le plus glauque, le plus sordide, pour avoir le même effet sur les personnes. Et en fait, on peut se poser la question de savoir si en fait on s'habitue ou pas à ce fait divers et aux images qu'on peut voir et la manière d'être touché par ces images-là et ces faits-là. Je pose la question.
Ben oui, la question est ouverte, mais c'est vrai
Tu crois qu'il y a un phénomène d'escalade un petit peu du fait divers ?
Je sais pas, mais enfin, en tout cas, avec tous les... C'est la chaîne de télé qui aura peut-être les images les plus trash, qui fera le plus d'audience. Hein. Les images... Voilà, on va nous y montrer les décapitations des djihadistes. Enfin, c'est pas forcément dans du fait divers, mais on va nous montrer... C'est le côté trash et la surenchère à l'image ou de la course. On va faire croire qu'il y avait une image qui a été tournée dans l'avion, qui s'est scratchée. On va y mener des choses. Je sais pas. Est-ce que la surenchère fait qu'on s'habitue ou pas?
Ouais, je sais pas trop. Les auditeurs peuvent nous donner leur avis.
Voilà,
sur,
vous pouvez
notre
donner
page Facebook,
votre avis.
Sur Ton Libre et les chroniques du Ton Libre, hein, il y a une page sur Facebook. Et puis aussi sur Twitter avec le hashtag Ton Libre. Voilà,
comme toujours.
On regardera ce que vous nous proposez, votre avis, votre regard sur ces faits divers qui bousculent et remplacent l'actualité de fond. Pourtant, il y en a plein de vrais beaux sujets.
De vraies activités, des vraies actus qui informent sur l'état du monde et de notre société.
Puis d'ailleurs,
on
pourrait même se dire que parfois, l'information devrait aussi sortir du prisme unique qui est celui de l'actualité.
Aussi.
Parce que il y a plein de sujets qui méritent de se reposer dans le temps long, de sortir de l'immédiateté entre l'événement, qu'il soit important ou moins.
Tout à fait.
D'ailleurs, on sait que les médias sont en crise, notamment la presse écrite, et qu'il y a de nouveaux modèles de presse écrite qui, justement, rejettent ce principe d'une actualité immédiate pour se reposer le temps de faire du travail de fond, du reportage, etc. Et ça, c'est,
ce qu'on appelle le journalisme, effectivement, d'essayer de comprendre et décrypter ce qui se passe plutôt que de dire à chaud ce qui s'est passé, juste de montrer les images en brut.
Relayer des dépêches AFP, c'est pas suffisant.
Tout à fait. On fait une petite pause, on en reparle après ou plus tard dans l'émission, c'est comme vous voulez.
Ça marche très bien. Et ben, on repart en musique.
Comme ça, je vais relire mes notes.
Après, le soleil, la lune, je vous donne dans le mille, très original par rapport à notre thème. Le morceau s'appelle l'éclipse.
Yeah.
L'éclipse, c'est le remix.
On plane. L'amour léger dans l'âme.
On a tellement de chance. On saute du coq à l'âne.
La tête dans les étoiles.
Une chanson est un jeu alors.
Faisons de notre mieux.
Faisons le savoir.
Si on s'éclipse ce soir.
On le sait tous les deux.
On se laissera porter comme dans nos rêves.
Sur cette mélodie,
elle nous suffit ce soir
à se croire immortel comme la nuit.
Sensible, j'ai le cœur qui s'emballe,
il envahit mon âme.
Je me croyais plus fort,
même si ça m'est égal.
Si la vie est un jeu,
lequel de nous deux
celui qui chante?
Si on s'éclipse ce soir,
on le sait tous les deux.
On se laissera porter comme dans nos rêves.
Sur cette mélodie,
elle nous suffit ce soir.
À se croire immortel comme la vie.
Do-do-do-do-do-do-do.
Eclipse, un morceau choisi par Hélène.
Ouais, et je suis contente de le réécouter parce que ça faisait très longtemps que je l'avais écouté. J'aime énormément Mathieu Chédid.
Ouais.
Et il a fait cette chanson avec Sean Lennon, le fils de John Lennon, donc le grand John Lennon. Et je le trouve plutôt sympa.
Ouais, très sympa.
Puis je crois qu'il était adapté à la thématique du jour.
Mais oui, c'était bien trouvé. Hein. J'imagine que tu as dû en passer des soirées à te creuser la tête. Mais quel morceau.
Pour une fois, je n'ai pas trouvé un morceau capable de tracter, de voilà, trouver un lien complètement
en tout cas,
incroyable.
Très bon choix. Emilien,
ouais.
Tu es retourné sur le terrain pour nous.
Eh oui.
Voilà.
Cool.
Et tu ne pouvais pas trouver meilleure transition musicale, en fait, puisque je suis allé à la rencontre
de Mathieu Chédid.
Non, mais pas
du tout. De John Lennon. De John Lennon. Non, pardon.
Mais la thématique y est. Je suis allé à la rencontre de gens qui se sont éclipsés un jour.
Ah.
Voilà. Des personnes qui ont disparu subrepticement, qui ont échappé à une situation un peu contraignante, un petit peu difficile, un peu ennuyeuse comme ça.
Okay.
Et voilà, donc j'ai fait un sort de micro-trottoir et voilà, j'ai demandé ça. C'était une vision un peu saugrenue quand
ouais.
même
ouais,
aux personnes, mais j'étais d'ailleurs assez étonné de voir que finalement les gens faisaient relativement face et qu'ils étaient assez déconcertés en général et ils acceptaient volontiers de me répondre. Ils n'avaient pas forcément identifié comme ça dans leur souvenir à un moment où ils étaient à un moment précis où ils s'étaient éclipsés.
Mmh. On écoute.
C'est parti.
C'est long.
La semaine dernière, je me suis éclipsé. J'avais un besoin de faire un break. J'étais en famille et j'en avais un petit peu marre, donc avec mon épouse, on a fait un petit break dans un 50 km dans un hôtel. Et bon, avec un spa et un sauna, et c'est vrai que ça fait un bon break, donc ça, c'est une éclipse.
Je suis infirmière en réanimation, et donc du coup, on est amené à prendre en charge les familles de patients qui viennent d'apprendre que leur proche est hospitalisé. Et dans ce cadre-là, on les prépare un petit peu à ce qui vont voir comment leur proche va être. Et il y a toujours ce moment où on les amène auprès de leurs proches et il faut trouver le bon moment où on sait qu'ils n'ont plus besoin de nous et donc les laisser avec leurs proches et il faut trouver le bon moment justement pour s'éclipser.
Quand je suis dans une soirée où il y a beaucoup de monde et que je m'ennuie et que j'ai envie de partir, je dis jamais au revoir, donc je m'en vais comme ça en catimini.
D'accord.
Voilà.
J'aurais pas pu rêver mieux. J'aurais pas pu rêver plus fort. C'est juste.
Ah oui, quand tu te fais draguer par quelqu'un que t'as pas envie.
Non, ça j'ai jamais eu.
Ah, t'as toujours voulu.
Ah oui, je crois que vous aussi, ça vous
est arrivé,
non ?
Oui, mais ça me parle.
C'est ça, je suis sûr, c'est pas faux.
Au théâtre, c'est aussi.
C'est vrai ?
Il peut arriver, qu'est-ce de théâtre qui ne plaît pas, oups là, non, on s'en va, ça, non, là, ça...
Oui, mais ça m'arrive rarement parce que j'espère toujours que ce sera mieux après, au deuxième acte ou après l'entracte.
Tu es parfois assis au milieu de la rangée, tu ne peux pas te... Il y a 30 personnes à gauche et 30 à droite, à déranger.
Je ne peux pas passer à côté. Ah, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est ça, c'est ça, je suis sûr.
Oui, moi j'ai eu même plusieurs fois. C'est une façon pour moi de me protéger.
Uh-huh.
C'est le même recours que j'ai des fois pour m'éclipser. C'est une solution que je trouve pour une situation difficile, familiale, où l'éclipser me permet de savoir après l'éclipse.
Et qu'est-ce que vous faites en général quand vous vous éclipsez? Vous partez vous promener?
On va dire, non, moi je me mets... j'ai pas besoin d'aller loin. J'arrive à m'éclipser seule dans ma tête.
Oui, si. Dans le cadre de conférences, par exemple, à la coupure, très souvent, quand le sujet est un peu ardu ou désagréable, je me suis éclipsée. Si, voilà, l'opéra. J'avais été à un opéra à Bruxelles. C'était épouvantable. Et donc à l'entracte. Voilà.
super moment que ce reportage. Merci, Emilien.
De rien.
J'ai beaucoup aimé la dame qui dit que quand... voilà, pour des raisons familiales ou autres, elle s'éclipse et qu'elle n'a pas besoin d'aller loin, ouais. Juste se retirer en elle, finalement. Quoi.
Oui, oui. Ouais. S'éclipser en elle-même.
Moi, je pense qu'on a tous finalement ces moments. J'avais pas du tout pensé à ça, tu vois, en réfléchissant au terme éclipse, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on s'échappe en se recréant une petite bulle, loin ou juste là où on est.
Oui. Il y a une dame qui m'a raconté une histoire assez marrante. Le son était vraiment trop mauvais. Il y a une péniche qui garait juste à côté de nous au moment où j'ai pris le son. Mm-hmm. Elle m'a raconté que le jour de son mariage, elle était assaillie vraiment de gens, de plein de gens, notamment de gens qu'elle ne connaissait pas. Et l'histoire de s'isoler, vraiment de s'éclipser 10 minutes, elle a demandé aux amis de son mari qui étaient vraiment très grands de l'entourer. Et voilà, elle s'est mise au milieu comme ça. Et pendant l'espoir de 10 minutes, elle s'est complètement éclipsée. Elle s'est évanouie comme ça. Et ouais. Ça lui a fait. Voilà. C'était assez drôle, ouais, assez mignon.
Alors Hélène, revenons-en. Non.
si.
Parce que voilà, c'est ça en fait. Maintenant, dans le studio de HDR, on est. Je ne suis plus dans la même pièce que mes chroniqueurs. Donc là, je vois Hélène à 2 mètres de moi.
On se voit quand même.
On se voit, mais c'est pas la même chose. Et donc voilà, c'est pas pareil. Bref, c'est ton livre jusqu'à 20h. Éclipse.
Allez, on continue ?
Ouais, on continue.
Donc, on a parlé de faits divers, hein, mm-hmm. Et pourquoi ça nous fascinait. Et en fait, on a parlé... Enfin, j'ai proposé d'aller faire un tour sur le site dacrimed.org. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que sur ce site, il y a un article très intéressant. Mais il y en a plein d'autres. Mais il y en a un qui m'a particulièrement intéressée sur la place des faits divers dans les journaux télé et à la place... Et donc, leur place dans nos chaînes de télé. Mm-hmm. Et en fait... Il a été prouvé, scientifiquement parlant. Donc il y a une grosse étude de fait, et en fait en 2013, donc ça a commencé à dater un petit peu, mais c'est toujours valable, et qu'en fait entre 2003 et 2013, donc en 10 ans, le nombre de sujets consacrés chaque année aux faits divers dans les journaux télé des grandes chaînes généralistes avait connu une augmentation de 73%.
Wow. C'est énorme.
C'est quand même énorme. C'est-à-dire que, par exemple, en 2003, il y avait 1191 sujets de faits divers. Et en fait, aujourd'hui, en 2013, il y en avait 2062 en nombre. Donc, c'est assez énorme. Et donc, du coup, par journal télévisé, maintenant, en fait, avant, il y en avait 3 sujets de faits divers. Maintenant, c'est jusqu'à 5, 6 faits divers par journal télévisé. Alors, est-ce qu'il y a plus de faits divers ? Bah non. C'est juste qu'on a décidé d'en parler plus. C'est intéressant.
Ouais.
Pourquoi ?
Dis-nous tout.
Je ne vais pas tout vous dire parce que voilà, je n'ai pas fait une étude ni une thèse sur la place du fait divers. Mais en fait, l'article est très intéressant parce qu'il pose des questions, surtout que personne n'en parle de ça. Et en fait, j'avais découvert ce sujet-là en regardant un documentaire que je vous invite fortement à découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu. En fait, c'est un livre qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde » qui a été actualisé il y a peu et qui a été aussi mis sous forme de documentaire. Et donc, « Les nouveaux chiens de garde » qui est très intéressant de Serge Halimi et en fait, que vous pouvez regarder en morceaux sur YouTube, mais je vous invite même à acheter le DVD. Et en fait, ça parle justement effectivement de la place de ces faits divers et de la connivence entre les journalistes et le monde politique et le monde industriel. Et donc, qui explique aussi pourquoi, finalement, dans toutes les émissions de télé qu'on peut voir, enfin, de manière très majoritaire, on retrouve finalement qu'un seul courant de pensée et qu'on ne parle pas des courants annexes, etc. Et qu'on retrouve toujours les mêmes experts qui aussi figurent...
Plutôt hommes tant qu'à faire.
Plutôt hommes aussi tant qu'à faire, exactement. Et donc, par exemple, de certains économistes qui sont réputés et qu'on va faire intervenir à chaque fois qu'on va parler de crise ou que de quoi que ce soit et qui se trompent à chaque fois sur leurs prédictions, qui n'avaient pas du tout prévu la crise de 2008, etc. Et qu'on continue d'inviter, etc. Et donc, une prédominance de quelques personnes, de quelques journalistes, de quelques... et qui trustent finalement toutes les émissions, etc. Et donc en fait, le documentaire en parle très très bien, et ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les médias aussi, avec le grand mercato des journalistes et des acteurs de ces chaînes de télé-là, et du rôle aussi des faits divers, qui permet de faire diversion. Et donc, je peux vous parler d'une petite citation de Pierre Bourdieu, qui en a parlé à l'époque... Bien. Où il s'est intéressé à la thématique. Il pourrait encore davantage en parler aujourd'hui, vu le recul et la place des médias dans nos vies, mais c'est très intéressant. Pierre Bourdieu, en fait, a constaté que le temps est une denrée rare à la télévision, et que si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c'est que les choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses. Or, en mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exister, pour exercer ses droits démocratiques. Mmh. Donc pourquoi on met autant de faits divers plutôt que de parler de choses essentielles? Pourquoi on parle des petites phrases des politiques plutôt que de leur politique et, de leur, et du contenu de leur programme? Ben, je pose la question.
Ouais.
Voilà.
C'est un... Je pense que tous les journalistes, à un moment ou à un autre, de toute façon, se posent ces questions-là. Et quand c'est aussi lié à la question de l'indépendance aussi des médias.
Tout à fait.
Quand tu évoquais tout à l'heure ces connexions entre monde politique, économique, industriel, etc., qui sont bien souvent aussi propriétaires de médias, de groupes de presse. Enfin, voilà,
c'est vrai qu'en termes de chaînes de télé, mais aussi de presse écrite, c'est vrai qu'il n'y a que quelques grands groupes qui possèdent l'essentiel des titres et qui sont souvent des grands industriels comme Lagardère, Dassault, etc. Ouais, et donc qui ne sont pas au départ des journalistes ou des grands actionnaires de presse, mais qui ont investi ce domaine-là.
Ouais.
Donc voilà, c'est intéressant de le savoir. Mm-hmm. Après, on en fait ce qu'on en veut et d'aller chercher peut-être d'autres sources d'informations, peut-être complémentaires. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans les journaux est faux ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le débat, mais juste de s'interroger sur...
Où on met la priorité.
Où on met la priorité dans les informations. Et donc effectivement, pour la télé, pour continuer un petit peu sur l'article Acrimed, dans son article, en fait, dit qu'effectivement, c'est pratique le fait divers parce que ça fait de l'audimat, ça fait de l'audience, et qu'en fait, l'information, ça fédère. Du coup, on est sûr de mettre tout le monde d'accord sur le sujet, ça les captive. Mmh. Au moins, ça les fait pas fuir, parce que c'est sûr qu'un débat de 30 minutes sur une politique économique ou sur une situation très spécifique ou un dossier de fond, c'est sûr que c'est plus compliqué de garder les auditeurs et les spectateurs. Et donc, Pierre Bourdieu parle de ces faits divers comme des faits omnibus, c'est-à-dire des faits pour tout le monde. Mmh. Et donc, en fait, ça ne divise pas, ça fait consensus. Donc en fait, effectivement, quand on voit un drame, un accident ferroviaire, un braquage, un meurtre d'enfant, en fait, on est tout le monde d'accord. On est pour ou on est contre. Mmh. Et donc du coup, en fait, effectivement, ces faits divers permettent de faire diversion. Mmh. Voilà.
Ouais. Et c'est vrai, alors je pense à ça parce que quand il m'arrive de me déplacer à l'étranger, notamment en Afrique, et que j'ai l'occasion de regarder un peu la télé, ce qui est aussi intéressant et qui est même déstabilisant, c'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, on s'est habitué à des formats hyper courts. En gros, à la télé, à la radio, un sujet doit être traité en 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, et puis de temps en temps un peu plus long. Et donc, c'est plus facile de traiter un fait divers en 2 minutes qu'un sujet de fond. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Afrique, au Bénin en particulier, parce que c'est finalement le seul endroit que je connais, ce qui est intéressant, c'est que les médias n'ont pas pris ce pli des formats courts. Et donc, alors, j'ai pas beaucoup regardé la télé, mais c'est ça qui est un fait marquant, c'est que les reportages sur n'importe quel sujet, c'est tout de suite 10 minutes. Le format classique du reportage, c'est 10, 15, les formats 26 minutes passent tous les jours à la télé. On voit des reportages de 20 minutes sur un seul sujet. Et c'est vrai que c'est déstabilisant parce que nous, on n'est plus du tout habitués à ça, d'avoir... un sujet dans un journal où on s'étale comme ça, on prend le temps de l'aborder. Et donc, c'est vrai qu'on s'est formaté... en France et je pense en Occident en général, il y a des formats qui ne favorisent pas le fond.
Comme le format d'un film ou le format d'une série qui fait quasiment toujours la même durée, comme une musique aussi. Un morceau fait quasiment toujours 2-3 minutes, voire 4 minutes. On parle de morceau long. Mais c'est vrai que c'est un format...
Alors pour la musique, une forme si de vous norme. Avez envie d'écouter des musiques, des morceaux qui sont longs, écoutez HDR, évidemment, parce que nous, chez HDR, on prend le temps d'écouter d'autres musiques et lorsqu'un morceau dure 5, 6, 7 minutes, on l'écoute jusqu'au bout, on en profite, on laisse le temps de s'installer dans une ambiance et on s'impose pas les dictates du temps court.
D'ailleurs, il reste une demi-heure, on va passer que de la musique.
Et un des morceaux fétiches comme ça qui dure presque 10 minutes, c'est Again d'Archive. D'accord. Et donc là, c'est vraiment un morceau hyper planant. Mm-hmm. Et donc, on s'allonge sur le lit et on écoute pendant ça 10 minutes. Ah. Et il y a une montée en puissance progressive dans le morceau. Et heureusement qu'il fait 9 minutes et quelques, quelque chose comme ça, plutôt que 3 minutes. Parce qu'on en perdrait, on en perdrait quelque chose.
Et bien justement, réécoutons un morceau de musique. Enfin, on ne le réécoute pas, on réécoute un morceau, mais celui-ci, on le découvre. C'est un choix d'Emilien, il nous en dira deux mots tout à l'heure. A priori, ça ne remarche pas. Alors, je vais réessayer. Je n'abandonne pas. Eh bien non, le son de ce morceau ne veut pas sortir. Je suis désolée pour toi, Émilien.
Je chanterai pas non plus. Hein.
Ouais, mon truc ne marchera jamais. En fait, vous ne céderez jamais à l'envie de chanter un morceau. Eh bien, c'est pas grave. Je vous propose... Moi aussi, j'ai fait une petite chronique sur le thème, sur ce mot éclipse. Alors, je vais vous la proposer. Elle est très courte. Mm-hmm. C'est une minute à peine.
C'est pas très approfondi comme
non,
sujet.
Non, je ne suis pas allée fouiller au fond. Et puis, je préviens les auditeurs pour pas qu'ils aient le courage de tenir pendant ces 59 ou 63
après
secondes.
Après ton annonce, on s'attendait à un sujet de 20 minutes. Vraiment
approfondi, tu vois. Non, je fais léger. Avez-vous écouté l'éclipse? Alors oui, cette question, comme ça sonne un peu bizarrement. Pourtant, c'est bien ça. Mais pas vraiment, en fait. Parce que c'est ça, le truc. On l'écoute, cette éclipse, parce qu'il n'y a plus rien à entendre, ou presque. Une éclipse de 3 semaines. Alors, justement, on peut observer, le silence des intermittents, des ondes en intermittence. La maison ronde nous plonge dans l'ombre, plus de lumière. Où es-tu, Nicole Ferroni? Où es-tu, Marc Voinchet? Où es-tu, Jean-Mathieu Pernin? Peut-être à écouter le roulis de galets sous la vague, rêvant une fleur insaisissable. Vos gorges sont-elles devenues muettes, telles les pas sur une outrageante moquette trop épaisse? Une éclipse de 3 semaines. La lune n'a plus du tout le goût de jouer avec le roi soleil. Le son, c'est la vie, on le sait bien ici, et le silence, lui, ne devrait être qu'une respiration. Il est devenu, le silence, pendant ces longues semaines, une arme. Les voix se sont tues, il ne reste que l'horloge, imperturbable, égrenant les heures. 1, 2, 3. Tiens, comme un air à 3 temps, faudrait-il qu'un autre entre dans la valse? Éclipse. Voilà, c'est fait.
Mais c'est vrai.
Ben oui, donc voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à tous les journalistes, mais pas que les journalistes, les techniciens, les musiciens, les producteurs,
Invités qui peuvent plus intervenir.
Voilà, donc je crois que c'est aux environs de 4000 personnes, hein, Radio France.
Ah, c'est énorme.
Et donc un mouvement de grève depuis 3 semaines exactement aujourd'hui.
Ça aussi, c'est énorme.
Ouais,
c'est assez rare. Ouais.
Donc c'est vrai que nous à HDR, évidemment le son, la radio, c'est notre âme. Donc ça nous fait mal au cœur de voir que cette richesse radiophonique, ça fait 3 semaines.
Il faut dire quand même qu'ils ont remplacé toutes les émissions par
des playlists
assez incroyables. Et donc du coup il y a un vrai souvent j'écoute ça dans ma radio et donc j'ai Shazam très régulièrement parce que je découvre des morceaux et des artistes que je connaissais pas forcément. Et des super morceaux, ils ont une sacrée playlist
En fait ceux qui bossent encore, ce sont les programmateurs musicaux.
C'est ça.
Attends, entièrement raison, il y a des gens qui écoutent France Inter par exemple que lorsqu'ils sont en grève. Parce qu'en fait, effectivement, la musique est tellement de bonne qualité.
Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, bref, un petit coucou. Alors, je ne sais pas si on peut se permettre de dire collègue. On est collègue. Hein. On sait que la radio. Non, je l'ai découpé il y a quelques temps de cela.
En solidarité.
Voilà, c'est ça. Bref, donc, j'espère qu'ils vont trouver une issue. Sans doute qu'il faut. Je ne sais pas si c'est repenser le modèle de Radio France, mais en tout cas, il y a des contenus de qualité. Eux aussi, il y a plein d'émissions parmi lesquelles on prend le temps de décrypter l'info. C'est du service public, donc on a besoin de leur retour.
Moi, régulièrement, quand j'ai des longs trajets en voiture, je mets France Inter ou France Culture, et des fois, je tombe sur des émissions que j'aurais jamais écoutées et je me serais jamais intéressée à certains sujets. Et il y en a une qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Dans l'après-midi.
Sur quelle
France Inter. C'est sur France Inter, ou France Culture, j'ai un doute du coup. Où c'est des témoignages, où c'est les gens qui racontent des histoires du quotidien. Et à chaque fois, c'est vraiment super émouvant.
Ouais.
Et je trouve ça vraiment, vraiment très, très chouette. Ouais. Des reportages sur des
camps...
Des
camps du fait divers, pour le coup.
Oui,
oui, enfin, ouais. Des camps Roms, hein, où on est allé interroger les voisins, les gens qui habitent. Et c'est vraiment très intéressant de... Une histoire aussi, c'est vraiment... Là, par contre, c'est un fait divers, mais c'est rigolo. D'une dame qui était SDF et qui vivait depuis 30 ans au même endroit sur les marches d'un centre commercial en périphérie de... Pas très loin de Radio France, d'ailleurs. Ouais. Et donc, qui, a priori, avait soit plus de 60 000 euros en pièces et en billets sur elle en permanence. Et donc, il y avait ce côté SDF milliardaire. Et donc, la journaliste, elle a interrogé les gens qui la connaissaient pour un peu connaître son histoire. Et en fait, il y avait un mystère autour de ça. Et...
Ouais.
Enfin, des petites histoires comme ça. Et c'est très, très, très bien fait. Ouais. J'aime beaucoup cette émission.
Allons-y, les émissions, moi, ce que j'aime bien écouter. Alors, j'aime bien Comme un bruit qui court. C'est le samedi après-midi sur France Inter. Et toujours des reportages sur des initiatives alternatives au modèle social un peu classique ou français. Une émission, je crois que ça doit être à 15 ou 16 heures. Très, très chouette émission. Sur France Culture, j'aime beaucoup sur les docs. Alors je crois que ça passe dans la matinée, où donc ce sont vraiment des reportages, de longs reportages vraiment magnifiques. Sur France Info, pour donner un peu des radios différentes, j'aime bien les informer. C'est le soir à 20h, une émission, alors pour le coup un peu speed, mais je pense que c'est l'animateur qui donne un peu cette énergie-là à son émission, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ouais, y a plein de petites pépites. Ouais,
et ce qui est vachement bien, c'est que maintenant, il y a le podcast.
Et oui,
parce qu'on n'est pas toujours devant son poste de radio à l'heure précise.
Enfin, moi, la radio, mon meilleur ami, c'est ma voiture, quand même.
Bah oui, moi, je l'écoute quasiment... Enfin, les émissions comme ça, je l'écoute que dans la voiture.
Ah, et puis si, le rendez-vous de Laurent Goumard sur France Culture le soir à 19h. Ah, c'est un concurrent. Bon, voilà.
On vous autorise, en dehors du jeudi.
Les jeudis où il n'y a pas ton libre.
Voilà, vous pouvez aller écouter le rendez-vous de Laurent Goumard. Je suis fan de son émission. Bref.
Et vous, auditeurs, est-ce qu'il y a des émissions que vous écoutez?
Qu'est-ce que vous écoutez?
On vous pose la question.
Toujours, vos réponses sur la page Facebook de Ton Libre et les chroniques du Ton Libre ou sur Twitter avec le hashtag Ton Libre. Voilà, faites-vous plaisir. Je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe du côté de l'autre côté de l'eau, du côté des États-Unis, Washington DC en particulier. C'est là que nous écoute Stéphane Emmanuel. Pour chaque émission, alors là on sait qu'il ne peut pas nous écouter, mais il réécoutera le son de l'émission dès qu'elle sera en ligne. Allez Stéphane Emmanuel, c'est à toi. Ça va être le running gag de la soirée. Les trucs qui ne veulent pas se lancer, c'est pas grave. Je vais relancer ça tout de suite. Je pense qu'au deuxième coup, ça devrait aller. Surtout, cher chroniqueur, ne m'aidez pas à combler pendant que je farfouille la technique.
Si, moi.
Ah, ça y est, c'est revenu.
Oui, voilà. En fait, oui, évidemment, si je vous éteins vos micros, c'est plus compliqué.
On ne peut plus parler, on ne nous entend plus.
C'est la censure, je vous éclipse. Allez, non, ça ne veut toujours pas marcher.
Une tradive, non.
Ouais. Bon, de toute façon, on ne peut pas passer de musique. Hélène.
Oui.
Est-ce que tu nous avais posé toutes tes questions ou
pas? Moi, je peux vous faire parler pendant des heures, faut. Hein. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une dernière page que je n'avais pas soulignée encore, donc je peux essayer de voir si je trouve des petites choses, hein, toujours sur nos faits divers.
Hein. Ouais. Alors...
vas-y, Emilien, aide-moi.
Si, vous parlez d'émissions de radio tout à l'heure. Moi, j'ai surtout l'émission de Pascal Clark que j'apprécie beaucoup. Et la matinale aussi de France Inter.
Ça s'appelle comment l'émission? E-Live.
E-Live, c'est ça.
Voilà, le soir de 21h à 23h.
Oui, c'est effectivement. Ouais, c'est...
Eh ben, je ne connais pas du tout.
Tu ne connais pas E-Live?
Non. Il
faut aller faire un petit tour alors.
Ouais, carrément.
Ouais.
Ça parle de quoi? C'est quoi? Comment ça marche?
Des invités.
Voilà,
des invités,
des
ouais.
Des invités.
Voilà, du live.
Ouais, exactement.
À chaque fois, des morceaux en live. Plus souvent, 2-3 morceaux d'un même artiste. Donc, vraiment chouette comme émission.
Bon, l'émission avait fait un peu polémique, effectivement, du fait qu'on avait refusé à Pascal Clark sa carte de presse.
Ouais,
effectivement. Ça a été insurgé, notamment.
Pour parler des grèves à Radio France, je me suis posé la question comment on pouvait faire 100 000 euros de travaux dans un bureau.
Oui, ouais.
Enfin, honnêtement, hein, je...
Ah, il y a une émission géniale aussi.
Bah vas-y, j'en prie.
Non, mais c'est,
On meuble, hein. Discrètement.
C'est, si t'écoutes pas, j'arrête tout.
Ah si oui, si t'écoutes pas, j'annule tout.
Voilà.
Ouais, je l'ai écouté.
Et il y a des chroniqueurs très sympas. Excellent. Ils font des très bonnes chroniques. Ouais, ouais. Avec André Manoukian.
Charline Vandenacker, un truc comme ça.
Et Charles Meurice.
C'est ça.
Charlotte, non, comment elle s'appelle, la fille?
La présentatrice?
Oui.
Charlotte Vandenacker.
C'est ça, Charlotte.
Il y a Dupont Mono, là, Claire, c'est ça?
Ouais.
Et justement, ils avaient un petit peu parodié justement la décoration de leur bureau. Ils étaient partis justement en live.
D'accord,
en
live, ouais.
Par rapport, ils avaient imaginé redécorer leur bureau avec des matériaux extrêmement nobles, extrêmement luxueux. C'était assez drôle.
Mais ça doit quelques kilos de marbre ou de feuilles d'or, quand même.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas. Oui, j'aime bien aussi cette émission que j'écoute de temps en temps dans ma voiture.
La radio, écoute la radio.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, on fait tous partie du même univers. Du même univers. Bon, alors là, je suis complètement désespérée pour Stéphane Emmanuel parce que je n'arrive pas à trouver la solution. Donc, on va devoir. Bon, je vais continuer à essayer. De toute façon, je suis têtue, donc.
On mettra sa chronique en lien, de toute façon.
Oui, voilà. Au pire, je mettrai sa chronique en lien. Bon, je suis bien embêtée.
Au pire, est-ce que t'as un morceau de musique en rab qu'on pourrait écouter?
Mais non, je n'arrive à rien passer du tout.
Ah, rien du tout, voilà. Rien du tout. Donc en fait, on ne compte que sur nos voix et le fait qu'on soit peut-être intéressant. Ne nous quittez pas, ne vous éclipsez pas.
On est toujours intéressant et je vais tester une autre technique. On va voir ce que ça peut donner pour passer un peu de musique en attendant que j'arrive à décoincer tout ça. Tiens, un morceau qui est plutôt pas mal. On va voir si ça marche. All my money went. Le groupe, c'était Lullaby Orchestra et le morceau, c'était All I Can Give You. Je sais pas si vous connaissiez ce groupe.
Mais, pas du tout.
Voilà. Alors, je sais pas que, comment était le son, mais bref. N'empêche qu'entre-temps, pendant ces 4 minutes, je n'ai pas trouvé la solution. Donc, je pense que Stéphane Emmanuel, je suis vraiment désolée, mais voilà, on ne va pas pouvoir passer ni ta chronique, ni plus de musique. Mais bon, en même temps, il est 19h52 et 16 secondes, et vous êtes sur HDR, le mix des cultures, jusqu'à 20h. C'est ton libre, avec Emilien, Hélène, mes chers chroniqueurs.
Ouais.
Hélène, on a
je peux vous raconter
page.
D'autres choses qui n'a rien à voir avec le fait divers.
Mais avec l'éclipse.
Non plus.
Non plus. On éclipse le mot éclipse jusqu'à
voilà,
la fin de l'émission.
On fait une petite parenthèse. En fait, j'ai regardé un mini documentaire et une petite expérience de psychologie en fait qui a été menée. C'était des anglophones. Alors, je ne sais pas dans quel pays, mais je vais vous raconter. C'était très intéressant et ça peut rebondir aussi sur le fait divers.
Oui.
Je crois que Rebecca rigole.
Oui, voilà, parce que en fait, donc vous savez, dans ton libre, on est hyper connecté. Et donc, j'ai tweeté une photo de Hélène faisant sa chronique tout à l'heure. Et j'ai écrit « Fait divers, divers, D'apostrophe, H-I-V-E-R ». Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Et Hélène me répond gentiment « À quand le fait d'été ?»
Voilà.
Oui, voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan.
Mais il n'y a pas de souci. Effectivement, le fait divers, effectivement, où on se dit mince, les vies des autres est triste, c'est dur, etc. Et ça nous met dans des situations d'angoisse. Mais est-ce que je vais réussir à moi-même faire ma vie, etc. Et est-ce que comment ça impacte en fait notre psychologie et notre confiance en nous au quotidien. Et donc j'ai vu ce petit documentaire dont je pourrais mettre le lien effectivement aussi sur le blog de Rebecca.
Avec grand plaisir.
Voilà, pour que vous puissiez le regarder, le découvrir vous-même. Où en fait, c'est une professeure de psychologie qui a tenté une expérience. Qui a divisé la classe en deux sans le dire à la classe et elle a distribué deux exercices différents, donc un extrêmement facile et l'autre très difficile. Mais elle a dit aux élèves que c'était le même. Chacun devait ouvrir la feuille, en fait, ne pas en parler à ses voisins. Et donc, du coup, tous croyaient faire le même exercice dans la classe. C'était en fait trois questions autour d'anagrammes où il fallait, avec des lettres mélangées, refaire un mot qui existe vraiment. Et donc, du coup, sur le premier groupe, ils avaient donc effectivement des anagrammes extrêmement faciles. Et elle demandait à l'ensemble de la classe de résoudre le premier anagramme et donc de lever la main quand ils avaient terminé. Mmh. Et donc forcément, la partie de la classe qui avait l'anagramme facile lève la main tout de suite et les autres, galèrent parce que ce sont des anagrammes qui ne sont insolubles, etc. Et donc, après, elle demande de faire le deuxième anagramme et donc de lever la main, effectivement, quand ils ont fini. Donc effectivement, la même partie de la classe lève la main parce qu'effectivement c'était un anagramme facile. L'autre partie de la classe ne trouve pas, donc ne lève pas la main. Et donc le troisième anagramme était le même pour tout le monde. Et donc elle demande aux étudiants de résoudre le troisième anagramme. Et alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe?
J'imagine que les étudiants, du coup, c'était un peu démotivés, n'ont pas forcément levé la main. Le groupe qui avait répondu plus rapidement a à nouveau répondu plus rapidement.
Tout à fait. Effectivement, les étudiants qui étaient du côté, entre guillemets, qui avaient été déjà confortés dans à qui on avait donné confiance, finalement, dans leur capacité à résoudre les anagrammes, en fait, lèvent très rapidement la main, trouvent, alors que ceux qui n'avaient pas, qui avaient été finalement déstabilisés et mis en insécurité, finalement, se sentant nuls et hésitants et ne pas comprendre pourquoi eux n'y arrivaient pas par rapport au reste de la classe, et finalement, étaient dans des conditions psychologiques qui faisaient qu'ils réussissaient beaucoup moins bien.
Ouais.
Alors que c'était le même exercice, ils avaient toutes les mêmes, tous les mêmes compétences au départ.
Ouais.
Et donc, du coup, en fait, ça permettait d'illustrer des thématiques en psychologie où, en fait, les enfants acquièrent quelque part par la manière dont on les coach et dont on les accompagne et dont on leur apprend les choses, ils apprennent la confiance en soi ou pas. Et donc, ça peut aller très, très vite pour finalement être dans des états justement où on n'a pas confiance. Et donc, en fait, ça rebondissait aussi sur les articles de presse où nous ne sommes jamais comme il faut mettre des crèmes pour être plus belle, il faut faire du sport, il faut gagner de l'argent, etc. Dans des situations de frustration permanente où finalement, on n'est jamais comme il faut. Et donc, du coup, on perd notre confiance en nous.
Ouais.
Et jusqu'à quel point ça influence sur notre confiance à faire notre vie et être heureux. Voilà.
D'accord. C'est hyper intéressant. Ça serait intéressant d'avoir les références.
Ouais, c'est vrai.
Tout à fait.
C'est vrai que c'est une pédagogie. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller faire un stage en Angleterre pendant un mois. Et j'ai réalisé à quel point, effectivement, la pédagogie anglaise était beaucoup plus... Effectivement, tu as raison dans la valorisation, quoi, tout simplement, des enfants.
Ouais.
Et ça change beaucoup de choses. Enfin, effectivement, beaucoup plus à l'aise à l'oral. En France, on n'oublie pas de sanctionner les élèves, mais on oublie parfois aussi de les valoriser, de les... Mmh. Voilà. Quand ils ont de bons résultats.
Et c'était un stage avec des enfants, des jeunes enfants ?
Ouais, c'était un stage d'enseignement. J'ai enseigné dans une classe anglaise pendant un mois. Mm-hmm. Et voilà,
ils avaient quel âge ?
C'est des enfants de équivalent de CP jusqu'en CM2, c'est dans une école. D'accord. École primaire. Ouais. Mm-hmm.
Voilà, bah, et c'est différent, justement, les repères sur quoi, de façon un peu concrète, la façon de mieux valoriser les enfants ?
Ah bah de façon très concrète, ils ont des petits stickers. T'as jamais vu ça, Rebecca, non ?
Non.
Des petits stickers avec des petits smileys ou good job, ou etc. Et puis, en fonction de leurs réponses, quand ils ont de bonnes réponses, on leur colle un petit sticker. On les revalorise comme ça très, très régulièrement, en fait. Et effectivement, quand je suis revenu, le retour a été assez incroyable, parce qu'en fait, quand on est confronté à la pédagogie française... voilà, on valorise comme ça extrêmement peu les enfants. Quoi,
on met en avant l'échec plus que la réussite.
Oui, c'est vrai. Et ce qu'il dit, ça m'envoie aussi, quand j'étais au collège, il y a un prof d'histoire qui avait mené une expérience comme ça sur nous. Mm-hmm. Il nous avait montré, il avait divisé la classe en deux aussi comme ça, il avait montré deux, et ça rejoint un petit peu au fait divers, deux reportages identiques mais avec des commentaires différents. En fait, par rapport à l'image. Mmh. Et effectivement, le retour en classe entière avait été très très déstabilisant, parce qu'on a vraiment réalisé qu'on pouvait faire dire à l'image, extrêmement, énormément de choses. On était très très déstabilisés de voir que le groupe d'à côté avait compris du reportage des choses radicalement différentes. Quoi. Mmh. Ça, c'était
super intéressant
comme expérience. Ouais, ouais. C'est vrai.
Il y a plein d'expériences comme ça, super pour retenir. Des concepts sur l'interprétation des images.
Ouais.
J'ai un autre documentaire comme ça, pour apprendre les discriminations aussi. Ils ont divisé une classe en deux, les petits et les grands, genre sous 1m34, au-dessus d'1m34. Et donc en dévalorisant pendant deux jours le groupe des grands, en disant que c'est scientifique, ils sont moins intelligents, ils sont plus dissipés, etc. Et en fait, les discriminations, ils ont commencé à se taper à la récré, et à continuer les discriminations, et en justifiant, et finalement en rentrant dans les stéréotypes et dans les clichés qui étaient véhiculés pendant une seule journée. Et c'était très intéressant aussi à regarder comment ça peut se construire très rapidement.
Et tout ça milite pour que tous les enseignants soient vraiment formés, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pour des raisons d'économie, c'est quand même un vrai sujet. Parce que tous ces biais qui peuvent être passés parfois inconsciemment ou du moins involontairement, ça va avoir un impact énorme sur l'enfance, donc sa façon d'apprendre, sa façon de grandir, de devenir un adulte, voire un citoyen.
Tout à fait, tout à fait.
Trop débat. Fait,
Donc le prochain thème de la prochaine émission sera l'éducation.
bonne idée. Émilien a soufflé un thème tout à l'heure qui me paraît très très bien pour l'émission.
La procrastination.
Donc, voilà, procrastination.
Ah, la procrastination.
Pour le mois prochain, enfin, on va se trouver...